Chapitre 11. Le mardi, Duane partit pour la bibliothèque aussitôt après avoir terminé ses tâches matinales. Quand il entra dans l'atelier pour le prévenir de son départ, son père, bien réveillé et complètement dessoulé, était d'une humeur massacrante comme toujours lorsqu'il était dans cet état. « Tu as tout fini ? » grommela-t-il. Il travaillait à sa dernière version de sa machine à apprendre dans l'atelier, qui était autrefois la salle à manger familiale. Mais maintenant, lorsqu'ils mangeaient ensemble, ce qui était rare, Duane et son père s'installaient à la cuisine. Dans l'atelier, une demi-douzaine de vieilles portes posées sur des tréteaux servaient d'établi, et la plupart d'entre elles étaient jonchées de modèles de la machine à apprendre ou d'autres prototypes. Le père de Duane était un inventeur né. Il avait déposé 5 brevets, mais un seul, l'avertisseur de boîte à lettres automatique, lui avait rapporté quelque argent. La plupart de ses inventions étaient aussi encombrantes que la machine à apprendre qu'il occupait actuellement. Une énorme caisse métallique avec des manivelles, des écrans, des boutons, des fentes où glissaient les cartes perforées et des lumières de toutes les couleurs. L'engin était censé révolutionner les sciences de l'éducation. Lorsqu'on y avait convenablement entré des tonnes d'explications et de questions, et qu'on y enfournait les cartes perforées adéquates représentant les réponses de l'élève, elle pouvait assurer des heures et des heures d'enseignement programmées. Le problème, comme l'avait maintes fois fait remarquer Duane, c'était que chacune de ces machines reviendrait, avec tout le matériel didactique, à plus de 1 000 $ et n'était que purement mécanique. Les ordinateurs, répétait sans cesse Duane, exécuterait d'ici peu ce genre de tâches. Mais son père détestait l'électronique autant que Duane l'adorait. «
Tu sais quelle taille devrait avoir un ordinateur pour accomplir la plus simple des tâches d'enseignement ?»
objectait-il.
« Je sais, papa. Il faudrait qu'il soit grand comme le Texas et refroidi toutes les heures par un volume d'eau équivalent au débit des chutes du Niagara »,
répondait Duane. Le pater grognait et se remettait à la tâche sur un nouveau prototype de machine à apprendre. Duane admettait qu'elles étaient amusantes. À 8 ans, il avait appris sur l'une d'elles tout le programme d'études politiques jusqu'à la classe terminale. Mais elles étaient massives et peu attrayantes. Son père n'en avait vendu qu'une, à l'école de Brimfield, dont un responsable était une relation d'oncle Hart. Depuis, de nouveaux modèles encombraient les tables de l'atelier, les couloirs et les chambres vides du premier étage. Toutefois, Duane estimait que ces machines présentaient moins de danger pour leurs finances qu'une autre idée de génie de son père. Le centre commercial ouvert 24 heures sur 24 qu'il avait essayé de monter vers 1955. Cet établissement ne comprenait d'ailleurs en tout et pour tout que 2 magasins, une quincaillerie et l'Omnimart qui vendaient principalement du lait et du pain. Son père assurait seul toutes les livraisons. On pouvait l'appeler chez lui à 4 heures du matin pour lui commander un pain et il allait le livrer au fin fond de la cambrousse à une vieille dame pour découvrir qu'elle voulait surtout profiter du système de crédit immédiat proposé par l'Omnimart. Oncle Hart, qui avait tenu la quincaillerie, avait été aussi soulagé que Duane de voir le mirage s'évanouir. Mais Martin se vantait d'avoir prévu l'essor des centres commerciaux. Témoin, le centre commercial Sherwood qui se montait à Peoria, 9 magasins. Il avait seulement été en avance sur son temps. Il prédisait aussi que ces établissements allaient se développer et devenir gigantesques, des douzaines de magasins sous une seule verrière, comme les Galleria qu'il avait vues en Italie après la guerre. La plupart des gens auxquels il confiait cette conviction demandaient « Mais pourquoi ?» d'un air ahuri. Duane et oncle Hart, eux, avaient appris à acquiescer et se taire.
« Tu as vraiment tout fini !» répéta le pater.
« Ouais, j'aimerais aller faire un tour à la bibliothèque. »
Son père leva les yeux et ses lunettes glissèrent au bout de son nez.
« La bibliothèque ? Tu n'y es pas allé samedi ?»«
Si, mais j'ai oublié de prendre un manuel sur les petits moteurs électriques. »
En effet, la pompe de la vieille éolienne avait besoin d'être réparée.
« Mais tu sais déjà tout sur ce sujet !»
Duane haussa les épaules.
Ce moteur est vieux comme Hérode, il date d'avant notre raccordement au réseau électrique. Si je veux faire une réparation sérieuse, j'ai besoin d'un manuel.
Son père le regarda fixement et Duane devina ses pensées. Un camion avait tenté d'écraser son fils. Il en avait été secoué et quand ils avaient enterré vite le soir, Duane avait cru voir des larmes briller dans ses yeux. Mais il y avait du vent, peut-être était-ce une simple irritation due à la poussière. D'autre part, Martin McBride ne pouvait pas séquestrer son fils à la ferme tout l'été, ni lui servir sans cesse de chauffeur.
« Tu peux y aller sans passer par la route ?»«
Oui, facile. Je vais couper par la pâture sud et longer les champs de Johnson. »
Le pater retourna au fouillis de leviers et de roues dentées qu'il était en train d'ajuster.
« Oh, d'accord. Mais sois de retour pour dîner, compris ?»
Duane fit un signe affirmatif et alla à la cuisine se préparer un sandwich. Il accrocha à sa ceinture une thermos de café, vérifia que son carnet et son stylo se trouvaient dans sa poche, puis sortit. Il avait déjà fait quelques pas en direction de la grange pour aller dire au revoir à Vite lorsqu'il se souvint. Il remonta ses lunettes et prit la direction de la pâture sud, comme il l'avait dit à son père. Ensuite, il longerait effectivement les champs de Johnson jusqu'à la ligne de chemin de fer. Il n'avait pas menti. Il avait juste péché par omission. Car il ne se dirigeait pas vers la bibliothèque d'Elmhaven, à 3 kilomètres de la ferme, mais vers celle d'Oak Hill. Par la route, il fallait compter une dizaine de kilomètres. Et une bonne douzaine par l'itinéraire qu'il se proposait d'emprunter. Le soleil tapait dur. Cette matinée était la plus chaude de l'été jusqu'ici. Il déboutonna le haut de sa chemise de flanelle et eut envie de siffloter, mais il se ravisa. Le chemin le plus court pour se rendre de la ferme à Oak Hill, c'était de remonter vers le nord la route 6 jusqu'à ce qu'elle croise un axe secondaire qui rejoignait la 626, plus connue sous le nom de route d'Oak Hill. Mais cela signifiait emprunter des routes. Duane dut cependant en franchir quelques-unes, et tout d'abord le chemin non goudronné qui, en entrant dans Elmhaven, devenait First Avenue. Il ne s'attarda pas, traversa rapidement la zone des silos à maïs, au nord du bourg, qu'il contourna en évitant le haut de Broad Avenue. Au bout de Caton Road, il fut obligé de suivre un moment un étroit chemin de terre, mais bien que celui-ci fût carrossable, un véhicule de la taille du camion d'écarissage aurait eu du mal à passer à travers toute la végétation sur les côtés. Duane se trouvait alors tout près de l'usine de Suif, où, d'après Congdon, le camion avait été volé. Mais les bois étaient si denses qu'il ne pouvait même pas en apercevoir le toit. Il sentit la décharge avant de la voir, puis, aussitôt après, il aperçut le sordide groupe de cabanes près de l'entrée sud. Cordy Cook habitait une de ces maisons, si l'on pouvait appeler ainsi cet échafaudage de papier goudronné et de tôles posées sur des parpaings. Quelque chose bougea dans les buissons de l'autre côté de la ligne de chemin de fer. Mais Duane eut beau regarder derrière lui, il n'aperçut pas le moindre animal. Il continua, dépassant les monceaux de détritus émergeant au-dessus des arbres. De là, il lui restait une simple marche d'une dizaine de kilomètres à travers les champs et les bois du comté de Crèvecœur, et cela lui prit un peu plus de 2 heures. Oak Hill était déjà une petite ville, 3 fois plus importante qu'Elmhaven, avec une population de 5 500 habitants, un hôpital, une bibliothèque presque digne de ce nom, une modeste usine dans la banlieue, un tribunal, des faubourgs, enfin, tout. Duane quitta la voie ferrée à l'endroit où celle-ci faisait un coude pour contourner la ville par l'est. Il n'avait pas peur de marcher dans les rues bordées d'arbres d'Oak Hill, mais il prit soin de repérer les endroits où se réfugier, en cas de besoin, et de surveiller ses arrières. Il fit une pause à l'ombre du palais de justice pour manger son sandwich et boire du café, puis il remit sa thermos à sa ceinture et traversa la place principale jusqu'à l'hôpital. D'après l'étiquette verte épinglée sur sa poitrine, la dame à la réception s'appelait Mademoiselle Alnut. Elle siégeait derrière un bureau installé en plein milieu du couloir menant aux chambres des malades et il lui fut impossible de l'attendrir.
« Tu n'as pas le droit d'entrer !» déclara-t-elle d'une voix sèche de vieille fille. « Tu es trop jeune !»«
Oui, madame, mais Jimmy est mon seul cousin, et sa maman a dit que je pouvais venir le voir. »
Mademoiselle Alnut hocha la tête.
« Tu es trop jeune, je te dis. Les visiteurs de moins de 16 ans ne sont pas admis et nous ne faisons aucune exception. »
Elle le regarda à travers les demi-lunes posées au bout de son nez et ajouta
« De plus, il est interdit d'introduire des boissons et de la nourriture dans les chambres. »
Duane décrocha en hâte sa thermos.
« Je peux le laisser ici. Je veux seulement voir mon cousin quelques secondes. Je vous promets que je vais juste lui dire bonjour et ressortir aussitôt. »
Mademoiselle Alnut fit le geste de chasser un moustique importun et se replongea dans son fichier. Heureusement, Duane, en demandant où était Harlan, avait eu le temps de lire le numéro de chambre.
« Merci, madame, » dit-il poliment en rebroussant chemin.
Il y avait une cabine téléphonique dans le couloir de droite menant aux toilettes, et le seul autre récepteur à l'horizon semblait être celui du bureau des admissions dans le hall. Comme par hasard, il avait de la monnaie sur lui, et le numéro était dans l'annuaire. On n'appela pas Mademoiselle Alnut à l'interphone. Une des infirmières vint la chercher et l'accompagna jusqu'au hall. Il s'agissait d'un appel important. Aussitôt, Duane se glissa à côté du bureau du dragon et entra dans le couloir menant aux chambres. Pour la seconde fois de la journée, il résista à l'envie de siffler. Aussitôt après le petit déjeuner, Dale emprunta les jumelles de son père et suivit Depot Street jusqu'à l'ancienne gare de marchandises, puis la ligne de chemin de fer en direction de chez Cordy. Il n'avait pas la moindre envie d'aller dans ce coin, tout ce quartier du bourg lui fichait la frousse. C'était là qu'habitait Congdon, et il avait encore plus peur des grands bois près de la décharge. Mais après le conciliabule dans le poulailler, la veille au soir, il s'y sentait obligé. Pourtant, quel rapport pouvait-il y avoir entre Cordy ou Toby Cook et l'imbécile qui avait effrayé Duane avec le camion d'écarissage? La maison de Congdon se trouvait tout près de celle d'Harlan, mais la Chevrolet noire n'était pas garée à son emplacement habituel et la cour mal entretenue était déserte. Bien que cette vieille crapule l'ait passablement effrayé la veille, Dale avait moins peur du shérif que de son fils CJ Congdon. D'ailleurs, tous les enfants de la ville avaient peur de CJ. Et lorsqu'il avait définitivement abandonné l'école l'an dernier, rien d'étonnant, il était encore en 5e à 16 ans, la plupart des écoliers d'Elmhaven s'étaient réjouis. CJ était une vraie caricature de gros dur tel qu'on en voit dans les dessins animés. Grand, maigre mais musclé, avec les cheveux coupés en ailes de canard et des rouflaquettes qui lui mangeaient la moitié du visage. Il était toujours vêtu d'un t-shirt graisseux avec un paquet de cigarettes roulé dans la manche et d'un jean crasseux porté si bas sur les hanches qu'on s'attendait à voir apparaître son sexe. Sans oublier les bottes à bout métallique, le tabac apprisé dans la poche revolver et le couteau à cran d'arrêt dans celle de devant. Dale avait une fois fait remarquer à Kevin que CJ avait dû suivre les instructions d'un manuel du parfait rouleur de mécanique. Mais il se gardait bien de faire ce genre de plaisanterie devant le gros dur. Quand les Stewart étaient venus s'installer à Elmhaven, 4 ans plus tôt, Dale, alors en cours élémentaire, avait eu le malheur d'attirer l'attention de CJ. Celui-ci, toujours en cours moyen à l'âge de 12 ans, rôdait dans la cour de l'école comme un requin dans un banc de poissons perroquets. Après avoir été rossé pour la seconde fois, Dale avait demandé conseil à son père, qui lui avait expliqué que les rouleurs de mécanique étaient en fait des couards et qu'il suffisait de leur résister pour qu'ils reculent. Le lendemain, Dale avait résisté. Il s'en était tiré avec 2 dents de lait en moins, des crises de saignement de nez et une cicatrice à la hanche, là où CJ l'avait bourré de coups de pied après l'avoir jeté à terre. Depuis cette époque, Dale se méfiait un peu des conseils paternels. Il avait tenté d'amadouer la brute par des cadeaux, CJ les acceptait, puis le rossait. Il avait tout essayé, y compris la flatterie, il s'était même joint à sa cour de lécheur de bottes. En vain, CJ lui administrait au moins une raclée par semaine. Pour tout arranger, Archie Craig, le disciple de CJ, se trouvait dans la même classe que Dale. Si CJ n'avait pas détenu le titre, ça aurait été Archie le gros dur d'Elmhaven. Il s'habillait comme lui, imitait sa démarche, sa sadique méchanceté, et portait un œil de verre. Personne ne savait comment il avait perdu un œil, mais le bruit courait que c'était CJ qui, en une sorte de rite initiatique bizarre, le lui avait arraché d'un coup de canif quand il avait 6 ou 7 ans. Quoi qu'il en soit, Archie savait tirer le maximum de son œil de verre. Quand l'institutrice endormait tout le monde avec sa leçon de géographie, il le posait sur son pupitre, dans la rainure prévue pour le porte-plume, comme pour monter la garde pendant qu'il faisait un petit somme. La première fois qu'il avait été témoin de ce manège, Dale avait pouffé de rire. Mais après avoir reçu un savon chez le directeur, Archie lui avait tendu une embuscade sur le chemin des lavabos des Garcons et lui avait plongé 4 fois la tête dans la cuvette des WC pour lui apprendre à rire. Et le lendemain, il l'attendait avec CJ au bout du terrain de jeu. Quoi qu'en disent les pères, on n'échappe pas aux gros durs et ces deux-là étaient des pros. Dale se sentit mieux quand il eut dépassé la maison des Congdon. CJ n'avait pas de voiture et son père refusait de lui prêter sa Chevrolet, mais Dale l'avait déjà vu au volant des véhicules de ses amis. Le jour où il avait commencé à conduire, tout le monde avait poussé un « ouf » de soulagement. Pendant ce temps-là, au moins, il ne traînait pas dans les rues. Pour aller chez Cordy, il y avait deux possibilités. Soit pousser le vélo par-dessus le remblai du chemin de fer et prendre la route de la décharge, soit le laisser quelque part et continuer à pied en longeant la voie ferrée. Dale n'aimait pas trop abandonner sa bicyclette dans ce quartier. Celle de Lawrence avait une fois disparu pendant deux semaines, avant qu'Arlène ne la retrouve dans le verger derrière chez Congdon. Mais il n'avait pas envie de jouer au chat et à la souris avec le camion d'écarissage. Il dissimula son vélo dans les broussailles derrière le dépôt, le camoufla complètement sous des branches et, sans cesser d'inspecter les environs à la jumelle, descendit sur la voie ferrée. Puis il ramassa un bâton et suivit en sifflotant le rail de droite. Il n'avait pas à s'inquiéter des trains. La ligne était presque désaffectée et, selon Arlène, il se passait parfois des semaines sans qu'on voie le moindre convoi. Au-delà de Caton Road, il n'y avait plus d'arbres, sauf quelques peupliers au bord du ruisseau. Dale commença à se poser des questions. Et si on le surprenait en train de surveiller la maison de Cordy à la jumelle? Et s'il se faisait attraper par cet ivrogne, le père de Cordy? Et s'il rencontrait un des types inquiétants qui habitait près de la décharge? Et s'il cassait ses jumelles? Je débloque. Il vit à gauche le toit de l'usine de Suif, mais aucun camion d'écarissage ne le chargea. Puis il reconnut l'odeur de la décharge et aperçut à travers les arbres la maison de Cordy. Il quitta la voie ferrée pour se glisser dans les herbes hautes, en essayant de rester le plus près possible des bois. Il fallait bien compter 100 mètres jusqu'à la maison et tant qu'il restait sous le couvert des arbres, il se sentait à peu près en sécurité. On ne pouvait le voir ni des rails, ni de la décharge, et avec toutes ces branches mortes par terre, il serait vraiment difficile de le prendre par surprise. Il s'installa dans un endroit bien protégé, entre deux arbres et un buisson épais, braqua ses jumelles sur la maison de Cordy, et attendit. Les Cooks habitaient un taudis. Il était difficile d'imaginer que quatre adultes, deux oncles vivaient avec eux, et une flopée de gosses puissent y loger. Par comparaison, la cabane de Deisinger et la baraque de Congdon étaient des palais. Il y avait trois masures en contrebas de l'entrée de la décharge, toutes plus sordides les unes que les autres, mais celle des Cooks était la pire. N'ayant, comme les autres, que quelques parpaings en guise de fondation, on avait l'impression qu'elle avait glissé. Elle penchait comme un navire échoué à marée basse. L'herbe était haute et verte le long du bois et au bord du ruisseau, mais la cour était en terre battue, agrémentée de flaques de boue. Et partout, des ordures. Comme la plupart des gamins, Dale adorait les dépôts d'ordures. Si la décharge n'avait pas été un repère de rats et de cinglés comme les Cooks ou les Congdon, ses copains et lui y auraient passé des journées entières à jouer, creuser, explorer, récupérer. Avant le passage hebdomadaire du camion de ramassage d'ordures, une des activités principales de la cyclopatrouille consistait à faire la tournée des ruelles et des rues afin d'inspecter le contenu des poubelles. C'était incroyable ce que les gens pouvaient jeter. Son frère et lui avaient une fois rapporté un vrai casque de tankiste en métal, capitonné à l'intérieur, avec des inscriptions en allemand. Depuis, Lawrence le portait pour ses matchs de football à 1 contre 10. Une autre fois, Mike et lui avaient découvert un grand évier, qu'ils avaient à grand-peine transporté jusqu'au poulailler des O'Rourke, mais la mère de Mike leur avait ordonné de le remettre là où il l'avait pris. Oui, les ordures étaient vraiment un truc épatant. Mais pas celle-ci. Les environs immédiats de la maison des Cooks étaient jonchés de ressorts rouillés, de cuvettes de WC ébréchées, de pare-brise brisés hérissés de morceaux de verre et posés de guingois dans les orties, de boîtes de conserve rouillées avec des couvercles découpés en dents de scie, de tricycles cassés ou passés sous des camions, de poupées abandonnées aux membres moisis et aux yeux morts. Dale passa 10 minutes à inspecter ce dépotoir avant d'abaisser ses jumelles et de frotter ses yeux rougis. Que peuvent bien-ils faire de toutes ces saloperies? Le métier d'espion n'était pas si excitant que ça. Au bout d'une demi-heure, Dale avait des crampes dans les jambes, des insectes lui grimpaient sur le corps, la chaleur lui donnait la migraine. Et tout ce qu'il avait vu, c'était la mère de Cordy ramasser du linge d'un blanc douteux et se fâcher après deux petits cooks qui, assis dans la plus profonde des flaques, s'éclaboussaient en se curant le nez. Pas la moindre trace de Cordy. Pas la moindre trace de ce qu'il cherchait à découvrir. D'ailleurs, que cherchait-il à découvrir ? Flûte à la fin. Mike n'avait qu'à venir ici et surveiller lui-même Cordy s'il voulait être renseigné. Il allait renoncer lorsqu'il entendit des pas sur le ballast. Il s'accroupit, la main sur les jumelles pour n'être pas trahi par un reflet, et essaya de voir qui venait. Il aperçut à travers les feuilles un pantalon de velours et des jambes bien connues. Qu'est-ce que Duane fabriquait par ici ? Dale partit en courant vers un meilleur emplacement, ce qui fit pas mal de bruit, mais plus loin, le remblai dessinait une courbe, et quand il arriva à l'endroit d'où il pouvait voir mieux, il n'y avait plus rien à voir. Il décida alors de retourner à son premier poste d'observation, mais un mouvement dans les hautes herbes devant lui le poussa à se cacher et à braquer ses jumelles. Armé d'un fusil à deux coups, Cordy traversait le bois d'un pas décidé. Dale sentit ses genoux flageolés. Et si elle l'avait vu ? Cordy était complètement cinglée. L'année précédente, en 8e, elle avait pris en grippe le nouveau professeur de musique, un certain Aléo de Chicago, et l'avait menacé par écrit de lancer contre lui ses chiens, qui lui arracheraient bras et jambes et le reste. C'est sans doute ce « et le reste » qui lui avait valu un renvoi de 10 jours. Monsieur Aléo avait d'ailleurs renoncé à enseigner à Elmhaven et était retourné chez lui avant la fin de l'année scolaire. Cordy était complètement givrée, point final. Si elle avait remarqué Dale, elle était tout à fait capable de le tirer comme un pigeon. Il s'aplatit dans les broussailles en s'efforçant de ne pas respirer, ni même de penser, car il était persuadé que les fous étaient télépathes. Cordy, regardant droit devant elle, traversa le bois, escalada le remblai à 15 mètres de l'endroit où Dale l'avait descendu et s'éloigna en direction de la ville. Son fusil était plus grand qu'elle et elle le portait sur l'épaule comme un petit soldat. Il attendit un instant avant de commencer à la suivre en prenant bien soin de ne pas se montrer. Ils étaient à mi-chemin de la ville, entre l'usine de suif et le silo désaffecté, et Cordy marchait toujours devant lui, sans jamais regarder ni à droite ni à gauche, posant le pied sur une traverse puis une autre comme un jouet mécanique en robe loqueteuse, quand soudain elle disparut. Dale hésita. Explora avec ses jumelles la voie et les lisières des bois, puis sortit prudemment la tête pour s'assurer qu'elle n'était pas allée sous les arbres. C'est alors qu'une voix bien connue retentit derrière lui.
« Tiens, voilà ce petit merde de Stewart ! Tu t'es perdu, putois ! »
Dale se retourna lentement, la main crispée sur ses jumelles. CJ et Archie se tenaient juste derrière lui à moins de 3 mètres. Il avait tellement pris garde de ne pas se faire repérer par Cordy qu'il en avait oublié de surveiller ses arrières. Archie était torse nu, ses cheveux gras dressés en crête au-dessus du bandana rouge qui lui saignait le front. Son visage adipeux luisait de transpiration et son œil de verre scintillait au soleil. CJ jouait les grands chasseurs blancs et acnéiques, un pied sur le ballast et l'autre sur le rail, le fusil au creux du bras. Dale sentit soudain ses jambes se dérober sous lui, si bien qu'il perdit tout espoir de s'en sortir en courant.
« Mon Dieu, c'est la réunion de la Fédération de tir ou quoi » pensa-t-il. « Et si je le disais tout haut, ces deux-là trouveraient peut-être ça drôle, et ils me taperaient sur l'épaule et ils retourneraient tirer les rats à la décharge. »«
Qu'est-ce que c'est que ce ricanement, putois ?»
demanda le fils unique du shérif. Il leva son arme, la pointant droit sur la tête de Dale. Il y eut un petit clic, la sécurité sans doute, à moins qu'il n'ait relevé le chien. Dale essaya de fermer les yeux, mais il n'y arriva pas. Il tenta de protéger les jumelles de l'impact de la balle qui allait lui traverser le corps. Sa jambe droite commença à trembloter, les battements de son cœur devinrent assourdissants. Il n'entendit même pas ce que CJ lui disait. Celui-ci avança de 2 pas et appuya le canon de son arme sur la gorge de Dale. Duane McBride trouva assez facilement la chambre d'Arlène, une chambre à deux lits, dont un seul était occupé. Arlène dormait. Duane jeta un coup d'œil dans le couloir vide et referma le battant de la porte, juste comme le crissement des chaussures d'une infirmière approchait. Il fit un pas vers le blessé et hésita. Il ne savait pas trop ce qu'il s'attendait à trouver. Arlène sous une tente à oxygène, peut-être, les traits déformés par le plastique, comme son grand-père, le vieux McBride, juste avant sa mort, 2 ans plus tôt. Mais Arlène dormait paisiblement sous un drap à mi-donné et une couverture de coton. Seul le plâtre de son bras gauche et les bandages blancs autour de son front témoignaient de son état. Duane attendit sans bouger que le bruit des chaussures se fût éloigné, puis il se dirigea vers le lit. Arlène ouvrit les yeux, battit 2 ou 3 fois des paupières comme un hibou et dit
« Salut, McBride !»
Duane faillit sauter au plafond.
« Salut, Arlène. Ça va ?»
Arlène essaya de sourire et Duane remarqua combien ses lèvres semblaient fines et pâles.
« Ouais, ça va. Je me suis réveillé ici avec un mal de tête du tonnerre et un bras en compote. À part ça, je suis en pleine forme. »
Duane acquiesça.
« On pensait que tu étais... »
Il hésita, n'osant prononcer le mot « coma ».«
Mort ? Non, inconscient ?»
Les yeux d'Arlène papillotèrent comme s'ils sortaient à l'instant du coma. Il les écarquilla, fronça le sourcil, essayant de fixer un point.
« Je l'étais. Inconscient, je veux dire. J'ai repris connaissance il y a quelques heures, avec cette saleté de mal au crâne, et j'ai trouvé ma mère assise au bord du lit. Un instant, j'ai cru qu'on était dimanche. Merde, pendant quelques minutes, je savais même pas où j'étais. »
Il regarda autour de lui comme s'il se posait encore des questions.
« Où est ta mère maintenant, Jim ?»« En face, de l'autre côté de la place. Elle est partie manger un morceau et appeler son patron. »
Le blessé articulait lentement. Chaque mot semblait lui demander un effort.
« Ça va, alors ?»
répéta Duane.
« Oui, je crois. Ce matin, toute une flopée de docteurs sont venus m'envoyer des lumières dans les yeux, me faire compter jusqu'à 50, des trucs comme ça. Ils m'ont même demandé de leur dire qui j'étais. Et tu le savais ? Bien sûr. Je leur ai dit que j'étais Dwight machin truc Eisenhower. »
Arlène sourit malgré sa douleur. Duane hocha la tête d'un air approbateur. Il ne lui restait pas beaucoup de temps.
« Tu te souviens comment tu t'es blessé ? Que s'est-il passé au juste ?»
Arlène le regarda fixement et Duane ne put s'empêcher de remarquer ses pupilles dilatées, ses lèvres tremblantes, son sourire forcé.
« Non, »
dit-il enfin.
« Tu ne te souviens pas être allé à Old Central ?»
Arlène ferma les yeux.
« Je me souviens de rien du tout. » Je me souviens juste de cette réunion débile à la grotte. Après, plus rien.
La grotte, tu veux dire à l'aqueduc ?
Ouais.
Tu te souviens de samedi après-midi ? Après la grotte ?
Arlène ouvrit les yeux et Duane lut la colère dans son regard.
Je viens de te dire que non, gros lard. On t'a trouvé dans la benne à ordures d'Old Central dimanche matin.
Ouais. « Maman me l'a dit. Elle était en larmes, comme si c'était sa faute. »«
Mais tu ne te rappelles pas comment tu es arrivé là ?»
Dehors, un haut-parleur appela un docteur.
« Non, je n'ai aucun souvenir de ce samedi soir. »«
Ça pourrait tout aussi bien être un coup de toit avec O'Rourke ou d'autres fumiers. Vous m'auriez tiré du lit, assommé et abandonné là. »
« Ta mère a dit à Madame Grumbacher qu'on avait retrouvé ton vélo dans Broad Avenue, à côté de la maison de la mère Foderch. »«
Ah bon ? Elle m'en a pas parlé, »
répondit Arlène d'une voix indifférente, dénuée de toute curiosité.
« Tu crois pas que tu aurais pu le poser là pour suivre la Foderch quelque part ? À l'école, peut-être ?»
Arlène se cacha le visage de la main gauche. Il s'était rongé les ongles au point d'avoir les doigts à vif.
« Écoute, McBride, Je t'ai déjà dit que je n'en sais absolument rien. Fiche-moi la paix, ok ? D'ailleurs, t'es pas censé être ici, non ?
Duane lui tapota l'épaule.
On était tous impatients de savoir comment tu allais. Mike et Dale veulent venir te voir dès que tu iras mieux.
Ouais,
répondit le malade derrière sa main.
Ils seront bien contents d'apprendre que ça va,
continua Duane en jetant un coup d'œil en direction du couloir d'où provenait un bruit de pas.
Tu as besoin de quelque chose ?
Ajouta-t-il.
Ouais,
de Michel Staffney nu sur un plateau d'argent,
répliqua Arlène toujours cachée derrière sa main.
D'accord.
Duane s'approcha de la porte, le couloir était vide.
McBride ?
Oui.
Attends, tu peux faire quelque chose pour moi ?
Un haut-parleur grésilla dehors et quelqu'un mit en marche une tondeuse à gazon sous la fenêtre. Duane attendit.
Allume la lampe, s'il te plaît.
La pièce était déjà inondée de soleil, mais Duane obéit. La lampe ne changea pas grand-chose.
Merci. Tu vois bien, au moins ?
Murmura Duane.
Ouais, pas de problème.
Il retira sa main et regarda son ami avec une expression étrange.
C'est juste que, si je me rendors, je veux pas me réveiller dans le noir, tu comprends ?
Duane acquiesça d'un signe de tête, chercha quelque chose à dire, ne trouva pas, fit un signe d'adieu au malade et se glissa dehors. Dale Stewart suivit du regard le canon du fusil de CJ jusqu'à son visage boutonneux.
« Seigneur, je vais mourir !»
C'était la première fois qu'une telle idée lui traversait l'esprit. Du coup, il eut l'impression que la scène se figeait. Et le temps s'immobilisa aussi définitivement que l'araignée fossile de Mike.
« Je t'ai posé une question, foutu corgnon !»
reprit CJ. La voix de la brute semblait venir de loin, très loin. Dale entendait toujours les battements de son cœur résonner bruyamment dans ses oreilles et il dut se concentrer pour ne pas s'abandonner au vertige. Il s'arrangea néanmoins pour prononcer un mot.
« Hein ?»
CJ ricana.
« J'ai dit, pourquoi ce foutu sourire ?»
Sans bouger le canon toujours appuyé sur la gorge de Dale, il remonta la crosse du fusil sur son épaule.
« Mais je souris pas ?»
Dale entendit sa voix chevrotée et pensa qu'il devrait avoir honte. Son cœur essayait de bondir hors de sa poitrine et le sol semblait prendre de la gîte, aussi se concentra-t-il sur son équilibre.
« Mon œil, tiens !»
grinça Archie. Le visage du dur en second était un peu de profil et Dale remarqua que son œil de verre était légèrement plus grand que le vrai.
« Ta gueule !»
jeta négligemment CJ. Il leva un peu le canon de son arme, de sorte qu'il n'appuyait plus sur le cou de Dale, mais visait droit le visage du garçon.
« Tu ricanes encore, foutu connard ! Ça te plairait que je te troue la pomme ?»
Dale hocha la tête, mais il ne pouvait s'empêcher de ricaner. Il sentait le sourire sur ses lèvres, un rictus impossible à effacer. Sa jambe droite tremblait fort maintenant, et il avait envie d'uriner. Il concentra ses efforts sur deux buts. Garder l'équilibre et ne pas faire dans son froc. La gueule du fusil était à 20 cm de son visage et lui paraissait énorme, un trou noir qui cachait le ciel et assombrissait la lumière du soleil. Dale reconnut un 22 long rifle, parfait pour tirer les rats de la décharge, l'endroit sans doute où se dirigeaient ces deux rats.
« Ça te plairait, hein, corgno ?»
insista CJ en réglant soigneusement sa mire, comme s'il cherchait quelle dent il allait faire sauter. Dale hocha la tête. Ses bras pendaient et il se dit que ce ne serait pas une mauvaise idée de les lever, mais il ne pouvait pas les bouger.
« Vas-y, tire !»
cria Archie hystérique. Sa voix dérailla, soit à cause de son excitation, soit à cause de la puberté.
« Tue ce petit couillon !»
reprit-il.
« Ta gueule !»
CJ loucha en direction de Dale.
« Tu es bien ce petit corgneau de Stewart, hein ?»
Dale acquiesça. Sa peur de CJ, sa colère et sa frustration après les raclées que lui avait administrées la brute lui donnaient l'impression de bien le connaître, et le fait qu'il pût ignorer son nom lui sembla presque incroyable.
« Alors, tu vas me dire ce que tu foutais là à nous espionner et à ricaner, où j'appuie sur la gâchette. Compris ?»
La poitrine oppressée, Dale cessa de respirer. Il leva les mains pour se protéger le visage, mais imagina ses paumes perforées par la balle avant que celle-ci n'atteigne sa bouche. Et pour la première fois, il comprit ce que signifiait mourir. C'était ne pas aller plus loin sur la ligne de chemin de fer, ne pas dîner ce soir, ne pas revoir sa mère ni regarder Flipper le dauphin à la télé. C'était ne plus tondre la pelouse le samedi, ni aider son père à ratisser les feuilles mortes en automne. Plus rien sinon être couché là, sur le ballast, pendant que les oiseaux lui picoreraient les yeux comme des baies et que les fourmis se promèneraient sur sa langue. Plus de choix, plus de décision, plus d'avenir. Échoué pour l'éternité. « Adieu, » dit CJ.
« Si tu appuies, c'est moi qui vais te faire sauter la cafetière. »
dit une voix derrière Dale. CJ et Archie firent un bond de 50 cm. CJ jeta un coup d'œil sur sa gauche, mais sans rabaisser son fusil. S'abstenant toujours de respirer, Dale tourna la tête de quelques millimètres pour voir qui était là. Cordy Cook était sorti du bois. Un pied dans les broussailles, un autre sur le ballast, elle tenait son fusil à deux coups fermement appuyé sur son épaule braquée sur CJ.
Cook! Petite conne!
Commença Archie de sa voix au perché.
Ta gueule!
CJ ne semblait guère s'affoler.
Qu'est-ce que tu fais, Cordy?
Je vise ta sale tronche avec le calibre 12 de mon père, connard!
Rétorqua-t-elle d'une voix aussi grinçante qu'une craie crissant sur une ardoise, mais parfaitement calme.
Abaisse ce pétard, idiote, et te mêle pas de ça!
Abaisse le tien d'abord, pose-le par terre et va-t'en!
CJ jeta à la fillette un autre coup d'œil, comme s'il évaluait le temps qu'il lui faudrait pour diriger son canon sur elle, et à cet instant, Dale espéra qu'il allait le faire. Tout plutôt qu'une gueule de fusil braquée sur la figure.
Qu'est-ce que ça peut te faire si je tire sur ce petit merdeux?
Le trou rond et noir était toujours à 20 cm du visage de Dale.
Abaisse-le, CJ.
Cordy parlait de son ton habituel, comme en classe les rares fois où elle ouvrait la bouche, d'une manière détachée, plutôt ennuyée.
Pose-le et recule. Tu pourras revenir le chercher quand je serai parti. J'y toucherai pas.
Je vais lui faire sauter la cervelle et après ce sera ton tour, petite conne!
Aboya CJ, furieux maintenant. Les pustules et les trous d'acné sur son visage maigre devinrent blancs, puis rouges.
« C'est un Remington à un coup que t'as, Kangden !»
Dale la regarda. Ses doigts étaient passés dans les deux gâchettes du vieux fusil qui paraissait énorme, lourd, avec des taches de rouille sur le canon et une crosse fendillée par l'âge. Mais Dale était certain qu'il était chargé et il se demanda s'il prendrait du plomb, lui aussi, lorsqu'elle tirerait sur CJ. «
Eh ben, tu seras la première » répondit-il.
Dale vit les muscles de ses bras se contracter et comprit qu'il était aussi pétrifié de peur que lui.
« Chape-la, Archie !»
ordonna-t-il. Craig hésita, chercha son couteau dans sa poche de jean et commença à s'approcher de Cordy.
« S'il traverse le second rail, tu es cuit !»
dit-elle froidement.
« Arrête !»
hurla CJ. Archie s'immobilisa et regarda son chef.
« Recule, bon Dieu, foutu enfoiré !»
lui cria-t-il. Archie battit en retraite de l'autre côté du premier rail. Dale avait recommencé à respirer. Le temps s'était remis à passer, lentement encore, mais il n'était plus figé. Peut-être devrait-il agir. Il avait vu des milliers de westerns dans lesquels Sugarfoot ou Bronco Lane, exactement comme lui dans la ligne de mire du méchant, s'arrangeaient pour lui arracher son arme. Ça ne devait pas être très difficile. Le canon était toujours à 20 cm de son visage, mais CJ regardait Cordy maintenant. Il suffisait de l'empoigner et de tirer. Et facile à dire.
Allons, décide-toi, Kangden, je commence à avoir des fourmis dans les doigts,
lança Cordy de sa voix monotone. CJ avait un muscle qui battait à la mâchoire, et la transpiration ruisselait sur son nez et son menton.
Tu sais que je t'aurai un jour ou l'autre, hein, Cordy? Je t'attendrai quelque part et tu me le paieras, ce coup-là. Et cher! Tu ne t'en tireras pas comme ça, tu sais.
Cordy haussa les épaules sans bouger son fusil d'un millimètre.
À moins de m'étendre raide, c'est moi qui te descendrai avec le 12 de papa. J'ai lancé les chiens sur Monsieur Aléo, tu t'en souviens? Et j'hésiterai pas une seconde à te flinguer.
Dale connaissait l'épisode du professeur de musique. D'ailleurs, toute la ville était au courant.
Va te faire foutre!
CJ abaissa lentement son fusil, le posa avec soin sur les traverses et recula d'un pas.
Et toi, Stewart, petit cornio, crois pas que je vais t'oublier comme ça!
Il fit un signe à Archie, qui, le couteau toujours à la main, le rejoignit. Puis ils descendirent du remblai, s'enfoncèrent dans les broussailles et disparurent entre les arbres. Dale resta immobile, regardant fixement le fusil à ses pieds, comme s'il s'attendait à le voir bondir vers lui et le viser de nouveau. Mais comme rien de tel ne se passa, il eut l'impression que le sol sous ses pieds reprenait sa place habituelle. Il faillit tomber, se rattrapa, fit quelques pas chancelants et s'assit sur le rail brûlant, les genoux tremblants. Cordy attendit que CJ et son acolyte aient disparu, puis elle braqua son arme sur Dale. Pas sur lui exactement, mais quand même dans sa direction. Dale ne le remarqua pas. Il était trop occupé à contempler la fillette. Elle était petite et grosse dans la robe informe qu'elle portait à l'école. De ses tennis troués sortait un gros orteil. Ses ongles étaient noirs et ses coudes crasseux. Ses cheveux pendaient en mèches graisseuses. Sa figure était plate, une face de lune avec des petits yeux, des lèvres trop minces et un nez retroussé qui aurait mieux convenu à un visage aux traits plus fins. Mais à cet instant, Dale trouvait que c'était la plus belle fille du monde.
« Pourquoi tu me suivais, Stewart ?»
Dale, la voix encore chevrotante, tenta de répondre.
« Je... ça va, hein ? Inutile de me raconter des bobards. »
Elle déplaça le fusil d'un iota dans sa direction avant de continuer.
« Je t'ai vu en train d'espionner ma maison avec tes jumelles. Et après, tu m'as suivi. Il aurait fallu être sourd et aveugle pour ne pas te remarquer, tu sais ? Allez, réponds !»
Dale n'avait plus la force de mentir.
« Je te suivais parce que... moi et mes copains, on cherche Toby. »
« Qu'est-ce que tu lui veux, à Toby ?»
Quand Cordy clignait des yeux, il disparaissait presque complètement dans ses joues.
« Rien du tout. On veut juste le trouver, voir s'il va bien. »
Cordy bascula la culasse de son arme et l'appuya sur son bras.
« Et tu crois qu'on le cache ?»«
Non, je voulais juste savoir ce qui se passait chez toi. »«
Pourquoi tu t'occupes de Toby ?»
« Mais je m'en moque de Toby, » pensa-t-il, mais il se garda bien de le dire et expliqua.
« C'est que... on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Rune, la mère Foderche et les autres ne disent pas la vérité. »
Cordy cracha sur le rail.
« On ? Qui c'est, on ?»
Dale jeta un coup d'œil au fusil. Il était de plus en plus persuadé que Cordy était folle alliée.
« Juste mes copains ?»
O'Rourke, Grumbatcher, Arlène et ses lavettes avec qui t'es toujours fourré ?»
La fillette s'approcha de lui, ramassa le Remington, bascula la culasse, sortit une cartouche de calibre 22, la jeta dans les bois et reposa l'arme par terre.
« Viens, partons avant que ces deux trouducs se redonnent du courage. »
Dale se leva et allongea le pas pour la suivre en direction de la ville. 50 mètres plus loin, elle quitta la voie ferrée et se dirigea vers les bois et les champs.
« Si c'est Toby que tu cherches, qu'est-ce que tu faisais près de ma maison alors que c'est bien le seul endroit où on est sûr qu'il n'est pas ?»«
Tu sais où il est ?»
Cordy le regarda, l'air écœuré par tant de bêtises.
« Si je le savais, tu crois que je le chercherais comme ça ?»
Dale prit sa respiration.
« T'as une idée de ce qui lui est arrivé ?»«
Oui. »
Il attendit, mais rien ne vint. Il insista.
« Quoi ? » ?»«
Quelqu'un ou quelque chose l'a tué dans cette saloperie d'école ?»
Dale se sentit à nouveau le souffle court. La cyclopatrouille cherchait à retrouver Toby, mais aucun d'eux n'avait envisagé qu'il puisse être mort. Il pensait qu'il avait fait une fugue ou qu'on l'avait kidnappé. Mais mort ? Avec le souvenir du contact de la gueule du fusil sur son cou, le mot prenait une autre résonance. Il ne répondit pas. Ils arrivèrent à Caton Road, près de l'endroit où une petite route entrait en ville et devenait Broad Avenue.
« Tu ferais mieux de rentrer, »
conseilla Cordy.
« Et surtout, tes copains et toi, vous avez vraiment pas intérêt à mettre des bâtons dans les roues pendant que j'essaie de retrouver Toby, tu entends ?»
Dale opina du chef.
« Tu vas entrer en ville avec ça ?»
Cordy dédaigna la question.
« Qu'est-ce que tu veux faire avec ?»«
Trouver Van Syke ou un des autres salauds et les obliger à me dire ce qu'ils ont fait de Toby ?»«
Tu vas finir en prison, oui ?»
Cordy haussa les épaules, chassa quelques mèches graisseuses de ses yeux et lui tourna le dos pour reprendre le chemin de la ville. Dale resta immobile à la regarder. La petite silhouette en robe grisâtre était presque dans l'ombre des ormes bordant Broad Avenue lorsqu'il lui cria
« Hé ! Merci !»
Cordy ne s'arrêta pas, ne se retourna pas.